Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Ivan Golunov est libre. La justice russe renonce à poursuivre ce journaliste d'investigation pour trafic de drogue. Vladimir Poutine a manifestement reculé face à la mobilisation populaire, ce qui est inédit en Russie. Dossier dans ce journal avec le reportage de Claude Bruyot et l'analyse de notre invité Marie Mindras, politologue au CNRS. L'homosexualité n'est plus un crime au Botswana. Le pays d'Afrique australe renonce à punir les relations homosexuelles alors que le Kenya avait pris une décision inverse il y a quelques semaines. Les explications de Valérie Crova. En France, le parti Les Républicains prépare la succession de Laurent Wauquiez. Les candidats à la présidence doivent s'engager à ne pas se présenter à l'élection présidentielle en 2022. Dossier suivi par Anne Fauquemberg. La nouvelle a de quoi surprendre venant d'un pays aussi verrouillé que la Russie de Vladimir Poutine. Le journaliste d'investigation Ivan Golunov est donc un homme libre ce soir. La justice russe abandonne les poursuites pour trafic de drogue le visant. Son interpellation avait suscité une vive émotion à l'étranger, mais aussi et surtout en Russie. Ivan Golunov travaille pour le site d'information Medusa, basé en Lettonie. Il avait notamment révélé une affaire de corruption généralisée dans le secteur des pompes funèbre. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Les 180 000 signataires d'une pétition symbolisant la société civile et demandant la libération d'Ivan Golunov ont joué un rôle capital dans la relaxe du journaliste d'investigation. Mais depuis Grozny en Tchétchénie, où il vient d'obtenir la libération de Lioub Titiev, son représentant régional, défenseur de la cause homosexuelle, arrêté et accusé exactement dans les mêmes conditions que Ivan Golunov, le responsable de l'organisation mémoriale de défense des droits de l'homme en Russie, Alexander Tcherkassov, est convaincu que si le pouvoir central à lâcher du lest, c'est aussi parce que ses intérêts n'étaient pas touchés.
Si ce n'est pas l'intérêt du pouvoir suprême, si la protestation est locale, si les gens montrent qu'ils peuvent protester, la machine de répression, les autorités ont peu d'effets de domino.
Et Alexander Tcherkassov, sans minimiser donc l'impact de la mobilisation pour le journaliste d'investigation, symbole d'une presse indépendante encore très active en Russie, rappelle que des cas plus graves encore, comme celui d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien, n'ont pas trouvé aujourd'hui de dénouement aussi positif, alors même que la mobilisation est internationale.
Claude de Bruyot, correspondant en Russie, invité de ce journal Marie Mindras, politologue au CNRS, professeur à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie Mindras, la justice russe abandonne donc les poursuites contre Ivan Golunov. Deux hauts responsables de la police vont être limogés. On peut dire que l'état de droit fonctionne encore un peu en Russie ?
Et il a fallu une incroyable mobilisation à la fois en Russie et à l'international. On a manifesté à Paris dimanche dernier pour que, bien entendu, les autorités se rendent compte qu'elles ne pourront pas mener un procès contre Ivan Golunov sur la base, évidemment, il n'y a même pas eu vraiment d'enquête ou d'investigation. On lui a mis de la cocaïne chez lui et puis on l'a arrêté le 6 juin. Et à ce moment-là, il pouvait encourir une très très longue peine de prison. Donc il a fallu cette mobilisation. Donc je dirais que c'est pas l'état de droit, c'est plutôt que les autorités russes ont eu peur de la mobilisation sociale et politique en Russie et à l'étranger.
Mais c'est tout de même rassurant de voir que les autorités russes peuvent elles aussi céder à la pression démocratique.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas la justice qui a reculé, c'est le ministère de l'Intérieur. La police à Moscou donc a été dessaisie et son dossier est passé au ministère de l'Intérieur après une première mobilisation qui a eu lieu le 8 juin parce qu'il avait été maltraité en prison et pour qu'il soit amené à l'hôpital. Et finalement, il a été décidé non pas de l'amener à l'hôpital, mais de le mettre en résidence surveillée chez lui. Donc, dès le lendemain de son arrestation, l'affaire était très très mal engagée pour le pouvoir russe.
Certains médias pro-Kremlin ont soutenu Golunov. C'est un phénomène inédit en Russie ?
Tout à fait. Je crois que c'est ce qui a vraiment fait tourner l'affaire au vinaigre pour le Kremlin. Ce matin, par exemple, la une de plusieurs journaux gouvernementaux, hein, plus ou moins serviles, et certains moins serviles, comme Commerçant, ont fait la une. Nous sommes Ivan Golunov, ou je suis Ivan Golunov. Et même des télévisions, on sait que ça, la télévision, c'est sacré pour le Kremlin. Ils ont un contrôle de toutes les télévisions basées en Russie et émettant de Russie. Même donc les télévisions gouvernementales ont parlé de l'affaire Golunov et dénoncer les moyens utilisés par les policiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que les journalistes n'aiment pas qu'on touche à d'autres journalistes. Et parce que si c'est l'impunité totale, s'il suffit de mettre une drogue dans la poche d'un journaliste pour que tout s'arrête, alors même le journaliste qui est dans un média gouvernemental, il sait que son tour peut arriver. Donc je dirais que vraiment l'erreur des autorités, c'est de s'attaquer à des journalistes avec ce type de procédé.
C'est tout de même une sacrée évolution par rapport à l'époque soviétique.
Moi, je ne comparerais pas avec l'époque soviétique, je comparerais avec l'époque de démocratisation en Russie, c'est-à-dire la fin des années 80, les années 90, et jusqu'à ce que le régime Poutine devienne un régime d'arbitraire. Les médias étaient libres, indépendants, pluralistes. Il faut comparer donc avec ce qui est comparable, c'est-à-dire la Russie d'avant Poutine. Et il est clair que il y a une forte mobilisation en Russie pour revenir à une information critique dans les médias et surtout pour sauver la liberté de l'Internet. Parce que la réalité de ce combat actuel, c'est la tentative par le pouvoir de reprendre le contrôle de l'Internet, ce que les Russes appellent joliment Internet. Et là, il y a vraiment une volonté d'empêcher le FSB et le ministère de l'Intérieur de reprendre le contrôle de l'Internet. Il faut rappeler que Ivan Golunov, donc le journaliste qui vient d'être libéré, il travaille pour Medusa, donc qui est un média russe, mais qui a dû s'installer à l'étranger, hein, dans une république balte, parce qu'il ne pouvait plus émettre de Russie.
Quelle est l'audience de ce site Medusa?
Ces sites comme Medusa, aussi la télévision Doge et d'autres, ont une très forte audience. Ont une très forte audience parce que c'est sur Internet. Tout le monde peut consulter l'Internet en Russie. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Iran. Et en plus, maintenant, j'ai de plus en plus, si vous voulez, les Russes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. Ils suivent de très près les évolutions en Ukraine, dans les pays baltes, en Europe. Il y a véritablement une ouverture dans l'esprit des gens qui comprennent que le régime Poutine veut les enfermer en Russie avec des médias exclusivement russes et contrôlés par le Kremlin.
Marie Mindras, chercheur au CNRS, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Direction le Botswana à présent, où là aussi un petit vent de liberté souffle ce soir. La haute cour de ce pays d'Afrique australe a décidé aujourd'hui de décriminaliser l'homosexualité interdite dans le pays depuis 1965. Il s'agit là d'une victoire pour la cause homosexuelle en Afrique, quelques semaines après un échec cuisant au Kenya. Valérie Crova.
Dans ce pays voisin de l'Afrique du Sud, les relations homosexuelles étaient jusqu'à présent passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Un anonyme dont on ne connaît que les initiales pour raison de sécurité avait déposé un recours pour contester les dispositions du code pénal, vieux de 54 ans. Devant une salle comble, le magistrat qui a prononcé le jugement a parlé de reliques de l'ère victorienne qui ne sont plus viables car elles oppressent une minorité, a-t-il expliqué. Le Botswana est réputé pour être l'un des pays du continent africain les plus démocratiques. Il a donné aujourd'hui une preuve de tolérance à l'égard des homosexuels, contrairement au Kenya, qui a refusé le mois dernier d'abroger les lois réprimant les relations entre personnes du même sexe. Cette décision ne doit pas faire oublier qu'en 2019, 28 pays d'Afrique subsaharienne condamnent encore pénalement les relations homosexuelles et que la peine de mort, si elle n'a pas été appliquée récemment, reste en vigueur. vigueur en Mauritanie, au Soudan et en Somalie.
Situation contrastée ce soir au Soudan. L'opposition accepte de renouer le dialogue avec les militaires une semaine après la répression sanglante d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les leaders de la contestation appellent les Soudanais à reprendre le travail après 3 jours de désobéissance civile. En revanche, au Darfour, la violence gagne du terrain. Des milices ont tué hier au moins 9 personnes selon un comité de médecins soudanais. C'est la première fois que le parti Les Républicains réunissait son bureau politique depuis la démission de Laurent Wauquiez et le départ de Valérie Pécresse. LR a dévoilé ce soir sa stratégie de reconstruction. Première urgence, trouver un successeur à Laurent Wauquiez, emporté par le cinglant revers de la liste Bellamy aux européennes. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Le président par intérim, Jean Leonetti, a proposé une méthode et un calendrier pour les futurs candidats à la présidence de LR.
Oui, et côté calendrier, pas de surprise, l'élection du futur président du parti aura lieu les 12 et 13 octobre prochains et en cas de deuxième tour, les 19 et 20 octobre. Les futurs candidats devront s'engager moralement à ne pas se présenter à la présidentielle en 2022. Au moins 4 personnalités réfléchiraient à prendre la tête du parti. Christian Jacob, Bruno Retailleau, Éric Woerth qui précise qu'il ne se présentera pas si Christian Jacob est candidat. Et enfin, Guillaume Pelletier. Tous ont jusqu'au mois d'août pour se déclarer. En attendant, l'actuel président par intérim, Jean Leonetti, ne compte pas être muet. Il l'a dit ce soir, il va organiser fin juin, début juillet au siège des LR à Paris une convention sur le thème des valeurs et des fondamentaux de la droite républicaine. Les résultats seront ensuite débattus dans les fédérations initiatives en accord avec le président du Sénat, Gérard Larcher.
Anne, il y a une autre urgence pour LR. À 9 mois maintenant des élections municipales, résister aux tentatives de débauchage venues de La République En Marche.
Oui, et le bureau politique réuni ce soir a d'ailleurs pris une résolution dans laquelle il s'insurge des pressions sur les élus LR menées depuis les élections européennes. Je rappelle que 72 élus de la droite et du centre ont signé une tribune de soutien au gouvernement le week-end dernier. Jean Leonetti, le chef du parti par intérim, s'en est d'ailleurs ému.
Il n'y a pas que des âmes fortes et quelques-uns, dans des situations de tension, cèdent facilement au chantage ou au phénomène de peur que cela peut générer après une élection européenne perdue qui, à mes yeux, et si on regarde l'expérience historique de ces élections, n'a rien à voir avec une élection municipale.
Voilà l'occasion de vanter le courage en politique et il en faudra un sacré paquet. Jean Leonetti le reconnaît d'ailleurs, mais il y croit. Il y a des convalescences qui sont longues, mais des guérisons qui sont solides.
Anne Fauquemberg, merci. Prise d'otage en cours ce soir à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne depuis 18h30 environ. Un détenu retient 2 surveillants sous la menace d'une arme artisanale, un pic en l'occurrence. Ce détenu n'est pas un islamiste, mais Francis Dorfer a déjà été condamné à 5 reprises pour des prises d'otages dans d'autres prisons françaises. Le 5 mars dernier, à Condé-sur-Sarthe, Michael Chiolo, un détenu radicalisé, avait agressé 2 surveillants avec un couteau en céramique lors de l'assaut de la police. Sa compagne avait été tué. La consommation de tabac baisse chez les jeunes, c'est le constat rassurant de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. L'organisme a interrogé 20 000 collégiens et lycéens âgés de 11 à 18 ans. Alors si un quart des élèves de terminale continuent à fumer ou boire de l'alcool au quotidien, chez les adolescents, le tabagisme recule, Alexis Morel.
Ce recul du tabac concerne tous les stades de l'adolescence. 21% des collégiens avaient déjà expérimenté la cigarette en 2018 contre 28% en 2014. Au lycée, seuls 17% des élèves fument quotidiennement du tabac. C'est 6 points de moins en 3 ans. Comment expliquer cette évolution? Stanislas Spilka est responsable des enquêtes à l'Observatoire français des drogues et toxicomanies.
Pour nous, une des mesures vraiment importantes, c'est l'interdiction de vente aux mineurs. Les générations qui arrivent aujourd'hui sont des générations qui ont grandi dans un dispositif très contraignant vis-à-vis de la vente de tabac. Et donc pour eux, c'est assez naturel que ce produit est interdit. Pour eux aujourd'hui, le tabac, c'est plus ça, quoi. Enfin, je crois que là, et les messages et les campagnes ont fini vraiment par dégrader l'image. On peut peut-être espérer à terme des générations sans tabac d'ici 10-15 ans.
Autre source d'optimisme, si le tabac est délaissé, ce n'est pas au profit du cannabis dont l'usage l'usage a aussi tendance à baisser au lycée. En revanche, peu de changements pour la consommation d'alcool qui reste stable au lycée à un haut niveau. 6 élèves sur 10 en avaient bu durant le mois précédant l'enquête.
Alexis Morel, merci. Le temps demain restera instable sur un grand quart nord-ouest avec de fréquentes averses orageuses. Sur le reste du pays, le ciel sera variable et le soleil s'imposera sur les régions méditerranéennes. Température minimale de 7 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales varieront de 15 à 26 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.